Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Politique, aujourd'hui le dernier de Gaulle. « 1969, année chaotique. Le 27 avril, il y a précisément 50 ans, les Français disent non au général de Gaulle. Ils rejettent son projet de réforme du Sénat et de régionalisation. Quelques heures après le résultat, le général démissionne. C'est l'épilogue de plus de 10 ans de pouvoir qui ont permis à la fois de sortir des tourments de la décolonisation, de fonder des institutions qui sont arrivées jusqu'à nous, de renforcer la souveraineté nationale. Mais en ce mois d'avril 1969, le général de Gaulle est à la fois puissant et affaibli. Puissant car les Français lui ont donné une forte majorité à l'Assemblée l'année précédente, en 68, juste après les événements de mai, réflexe légitimiste en quelque sorte face au désordre, mais affaibli car le chef de l'État a un peu moins de 80 ans, des successeurs potentiels se sont fait connaître, il est contesté et surtout lui, l'adorateur de la nation, le bâtisseur de l'État, doit faire face à l'essor d'un nouvel acteur politique, la société. Bonjour Arnaud Tessier.
Bonjour.
Alors la société, vous êtes historien, haut fonctionnaire, professeur associé à l'ENS et auteur de De Gaulle 1969 aux éditions Perrin. Dans cet ouvrage précisément, vous écrivez que la société, ce personnage nouveau en cette année 1969, a entrepris de se venger de l'État, c'est-à-dire ?
De se venger de l'État parce que tout s'est construit autour de l'État en France, et notamment au 19e et au 20e siècle. La société, c'est l'État social, c'est-à-dire c'est l'État qui véritablement irrigue de son action la vie collective. Et cette société, ce n'est pas seulement en France, c'est dans tout le monde occidental. Cette société, dans les années 60, c'est bien connu, est marquée par un essor de l'individualisme, veut oublier les temps de la guerre, et veut profiter de ces 30 glorieuses dont on parle beaucoup. Et De Gaulle, face à ce phénomène, n'est pas hostile, mais il est un petit peu nouveau parce que pour lui, c'est d'abord un corps électoral, une nation, un peuple.
Alors nous sommes justement le 28 avril 1969 et voici ce qu'entendent les auditeurs de France Inter par la voix d'Yves Morousi.
Après 10 ans, 3 mois et 19 jours, le général de Gaulle n'est plus président de la République française. De Colombelles-les-Deux-Églises, dès ce matin à 0h11, le général de Gaulle avait fait connaître sa décision. Décision résumée en quelques lignes. Le général de Gaulle communique « Je cesse d'exercer mes fonctions de président de la République. Cette décision prend effet aujourd'hui à midi. Il est midi et nous sommes le 28 avril 1969. » Le Conseil constitutionnel constate la vacance de la présidence. Comme le prévoit l'article 7 de la Constitution, M. Alain Poher est chargé à partir de ce moment de l'exercice provisoire des fonctions de président de la République.
Alors, vacances du pouvoir, vu avec nos lunettes d'aujourd'hui, pourtant c'est pas une défaite cuisante, hein, le nom, rappelons le chiffre, c'est 52% seulement. Arnaud Tessier, le général de Gaulle voit-il venir la défaite et est-ce que le pays voit venir ce rejet ?
Rien ne l'obligeait à quitter ses fonctions, il l'avait annoncé que s'il perdait le référendum, il partirait.
On l'entendra.
Mais rien ne l'obligeait. Oui, vers la fin, on a senti que de Gaulle pouvait perdre, son entourage avait perdu confiance, n'avait pas tellement confiance dès le départ, il trouvait que le sujet du référendum était complexe, mais de Gaulle dira plus tard qu'il avait perdu de peu, il aura une idée assez précise des raisons qui l'ont fait perdre, et il dira aussi, finalement, il n'y a jamais eu autant de gaullistes en France, puisque je crois qu'en termes d'inscrits, c'est le score le plus élevé qui ne sera jamais égalé par les successeurs de De Gaulle.
Alors on va venir au côté plébiscitaire ou pas de ce vote dans un instant, mais d'abord sur le fond, sur le projet que présente De Gaulle à la nation, sur cette régionalisation, sur cette réforme du Sénat, de quoi s'agit-il exactement ?
Alors il veut d'une part créer un nouvel échelon, mais qui contrairement à ce qu'on dit souvent n'est pas un échelon décentralisé, un échelon qui est la région, qui est plus vaste, parce qu'il veut un ressort pour l'action territoriale de l'État, son action économique qui soit plus puissant, à une échelle plus vaste, et puis il veut faire de la région nouvelle un lieu de rencontre justement avec la société. Mais pour lui, la société, il ne veut l'appréhender que comme les forces vives, c'est-à-dire les gens qui l'intéressent.
Ce qu'on appelle les corps intermédiaires aujourd'hui ?
Pas les corps intermédiaires de l'époque, mais les patrons d'entreprise, les syndicalistes énergiques, les chercheurs, les universitaires. Il ne veut pas des vieilles élites locales, mitterrandiennes un peu, qui sont celles du département et qui lui ont toujours été hostiles, la vieille droite un peu conservatrice. Donc il veut créer un nouvel espace pour rencontrer ces nouvelles élites.
Un mot du contexte politique de cette année 1969. Le Premier ministre s'appelle Maurice Couve de Murville. Il a succédé à Georges Pompidou peu de temps auparavant. Le général de Gaulle est plutôt, lui, sur l'international, sur la diplomatie.
Oui, mais il prépare beaucoup le référendum. Maurice Couve de Murville est chargé de conduire le pays, notamment de rétablir la situation financière après mai 68, qui a coûté cher. Et de Gaulle, effectivement, se consacre beaucoup à la politique étrangère et à la préparation du référendum. Il faut savoir, par exemple, que les derniers mois de la présidence de Gaulle sont consacrés à un rapprochement spectaculaire avec les États-Unis et avec le nouveau président Nixon. C'est quelque chose qui rompt avec l'idée que de Gaulle était une sorte d'anti-américain aigri, remâchant ces vieilles querelles de la Seconde Guerre mondiale.
Alors, vous parlez des derniers mois, voici ce qui concerne les derniers jours. Le général de Gaulle met clairement son mandat dans la balance. Écoutez ce qu'il dit, nous sommes le 25 avril 1969.
Votre réponse va engager le destin de la France, parce que la réforme fait partie intégrante de la participation qu'exige désormais l'équilibre de la société moderne. La refuser, c'est s'opposer à cette transformation sociale, morale, humaine, faute de laquelle nous irons à de désastreuses secousses. L'adopter, c'est faire un pas décisif sur le chemin qui doit nous mener au progrès dans l'ordre et dans la concorde, en modifiant profondément nos rapports entre Français.
Alors, cela ne suffit manifestement pas à convaincre les électeurs. Ce jour de vote, Arnaud Tessé, la France a-t-elle dit non aux réformes ou non à De Gaulle?
C'est difficile à dire. Non, les réformes, elle ne les a peut-être pas très bien comprises. Parce que De Gaulle parle des choses qui sont familières pour nous. Il parle d'aujourd'hui. Et il en parle il y a 50 ans. Et il y a un contraste saisissant entre ce qu'il dit, qui est juste, on le comprend maintenant. Il annonce des temps difficiles que nous avons connus, que nous connaissons. Et en même temps, il y a cette voix de vieil homme qui paraît surgir du fin fond de l'histoire. Donc, pourquoi les Français n'ont pas suivi? De peu, à mon avis, pour plusieurs raisons, et notamment parce qu'ils n'ont pas très bien compris les enjeux. On leur parle, De Gaulle leur parle de quelque chose qu'ils ne voient pas.
Oui, mais alors c'est contradictoire, parce qu'ils auraient pu faire confiance tout en ne comprenant pas.
Mais l'homme est trop vieux. L'homme est trop vieux, c'est un homme qui paraît du passé et qui parle de l'avenir. C'est difficile de faire comprendre ça à un peuple. Et je trouve que, compte tenu de cette ambiguïté, de ce paradoxe, le score qu'il a fait est quand même extraordinaire. Parce que c'est vraiment une voix de vieil homme qui rappelle aux Français les souffrances de la guerre, les périodes de gloire, mais aussi des périodes de souffrance. Et ce vieil homme leur parle de ce qui va arriver. C'est dur à comprendre pour un peuple, mais c'est extraordinaire qu'il ait quand même réussi à avoir tant de voix malgré tout.
Alors vous voulez dire qu'il véhicule une forme de tristesse ou de temps un peu dur pour la France qui ne correspond pas à l'euphorie de cette fin des années 60?
Tout à fait, il est en décalage. Et on verra bien après, presque tous ceux qui lui succéderont ne voudront jamais parler aux Français que de ce qui va bien, les rassurer, alors qu'on entrera dans les difficultés, qu'on s'y enfoncera. De Gaulle, c'est quelqu'un qui, au moment où les choses ont l'air d'aller bien, dit « faites attention, tout cela est fragile, la démocratie est fragile, notre vie est fragile, et il faut aller vers des rapports plus humains, parce que le capitalisme est trop dur ». Voilà un propos quand même qui résonne. Mmh.
Les médias, et notamment l'audiovisuel public, pour le coup, sont évidemment, à cette époque, dans le camp du chef de l'État. Ça ne l'aide pas à pouvoir influer davantage sur les électeurs?
Non, parce que les médias, tout repose. D'abord, je pense que dans les médias, tout le monde ne lui est pas acquis. Et puis surtout, tout repose sur ce lien direct entre lui et le peuple. C'est lui qui parle, c'est De Gaulle. Ça n'a plus rien à voir avec les relations que peuvent avoir les dirigeants aujourd'hui avec le corps électoral. Il a une sorte de lien particulier qui vient de l'histoire, de son personnage, et de l'histoire aussi.
Vous parliez de ce côté quasi prophétique sur les excès du capitalisme. Il dénonce dans ses discours le matérialisme ambiant. À votre avis, quel rôle cela a joué également dans cette période complexe? Est-ce qu'il a pu être vécu, pour parler un petit peu crûment, comme un rabat-joie?
Oui, un peu. Un rabat-joie, un empêcheur de tourner en rond. et puis un empêcheur de tourner en rond aussi par les milieux d'affaires, parce qu'il y a quand même un climat. Mai 68 a quand même été un avertissement. De Gaulle dit cela bien avant mai 68. Il le dit dès 1941 pendant la guerre dans le fameux discours d'Oxford. Il l'a dit bien avant, il a vu ce qui arrivait bien avant. Mai 68 lui a montré que les choses s'accéléraient. Et 68, ça a quand même été un sérieux coup de semonce.
Que dit-il précisément? Que le capitalisme ne suffira pas finalement à combler l'âme humaine?
Oui, il dit que quel que soit le niveau des salaires, le confort, la durée du temps de travail, toutes ces choses que les gens réclament, que les syndicats réclament, ça ne suffira pas parce que le capitalisme est porteur de rapports difficiles, que les technologies nouvelles arriveront et que quel que soit le niveau de vie, même si le niveau de vie est maintenu à un certain niveau, si je puis dire, eh bien ça ne suffira pas parce que les hommes, pense De Gaulle, les hommes, les travailleurs demandent plus. Ils demandent de la dignité, de la reconnaissance, de la participation, c'est le mot magique.
Oui, développer un peu sur cette notion, parce que la participation, c'est à la fois de faire entrer les salariés dans un processus de décision dans les entreprises, vous en parlez dans votre livre, aussi de les rémunérer davantage en les intéressant aux résultats qui sont faits, mais pas seulement, c'est une notion plus globale.
Ah oui, pour lui, ça va plus loin, et c'est sans doute ce qu'il a en projet, c'est même de les faire participer au capital de l'entreprise. Pour lui, il faut faire évoluer la structure même du capitalisme, de manière à ce qu'il y ait une solidarité de fait entre les actionnaires et les salariés. Parce que pour lui, sinon, le monde capitaliste ne réussira jamais à corriger ce qu'il appelle son infirmité morale.
Un mot des institutions qui sont solidement établies depuis 1962, depuis que les présidents sont élus au suffrage universel direct. Finalement, est-ce qu'il n'y avait pas aussi l'idée dans la société française que, comme ces institutions ont prouvé leur solidité, eh bien, le gaullisme pouvait en quelque sorte se poursuivre sans De Gaulle?
Oui, absolument. Et ils ont même eu peur, certains ont voté non, parce que la réforme du Sénat leur paraissait un moyen de liquider politiquement le Sénat, et ils pensaient que De Gaulle allait avoir encore trop de pouvoir. Mais en réalité, là aussi, De Gaulle avait une vision plus cohérente des choses. Il savait que les institutions étaient fragiles, parce que 68 les avait quand même ébranlées. Malgré De Gaulle, malgré des institutions fortes, tout a failli basculer devant quelque chose qui n'était pas une guerre civile. Donc De Gaulle sait que les institutions sont fragiles, et il avait raison. Il savait que ça tenait une certaine pratique, à certains codes, qui seront maintenus dans ses grands traits, dans leurs grands traits par Pompidou, et même par Giscard d'Estaing, mais qui vont être brisés à partir des années 80 et qui aboutiront à une Ve République qui n'a plus grand-chose à voir.
Vous venez d'évoquer un nom qui est important dans cette période, Georges Pompidou, l'un des fidèles, son ancien Premier ministre, son ancien directeur de cabinet, oui, également pendant sa traversée du désert dans les années 50. Georges Pompidou qui avait fait savoir quelques mois avant ce référendum qu'il était disponible si jamais, c'est ce qu'on appelait l'appel de Rome, c'était le 17 janvier 1969.
On m'a demandé si je serais président de la République française. Je ne vois pas que je pouvais répondre ni oui ni non. J'ai répondu qu'il fallait d'abord que la présidence soit vacante, c'est-à-dire que le mandat du général de Gaulle ait pris fin, qu'il fallait ensuite être élu, et que quant à la candidature, au jour d'aujourd'hui, ce n'était un mystère pour personne, et même pas pour moi, que je serais probablement candidat. Je n'en ai dit pas plus, je n'en pense pas plus, et je vous assure en tout cas que je ne fais à l'heure actuelle aucune campagne électorale. Grâce au ciel, le général de Gaulle est bien installé, et quant à moi, je crois en effet que si la présidence de la République est vacante un jour, le jour où le général de Gaulle aura cessé ses fonctions, eh bien, je crois probable que je serai candidat, mais d'ici là, bien des choses se passeront, et en tout cas, ça n'est pas ma pensée permanente, ni ma préoccupation permanente.
Voilà, Georges Pompidou qui sera donc le président suivant après l'intérim d'Alain Poher. Les milieux d'affaires, notamment, voient en Georges Pompidou un bon candidat déjà.
Oui, parce que c'est le gaullisme sans De Gaulle. C'est un gaullisme modernisé, plus ouvert vers le centre, un gaullisme plus ouvert vers la société, plus ouvert aussi vers le monde de l'économie. Parce que Pompidou a une expérience de l'économie, il a été chez Rothschild, mais c'est aussi quelqu'un qui a la confiance d'un électorat qui reste acquis aux acquis institutionnels du gaullisme. Donc Pompidou présente tous les avantages et on voit bien là quand même qu'il ouvre une brèche puisque De Gaulle encore presque 4 ans de mandat à faire. Donc c'est quand même un moment qui va précipiter la rupture entre les deux hommes qui s'explique, ils étaient très liés mais qui s'explique en partie par l'affaire Markovitch dans laquelle Pompidou avait failli être impliqué gravement et avec les incitations de certains gaullistes qui voulaient le discréditer, ça
oui,
c'est certain.
Il a toujours pensé que c'est l'entourage du général
oui,
De Gaulle qui était responsable
de
cette
lui-même,
affaire.
Mais certains membres de son entourage.
Il y a également une autre question après cette défaite. Si on fait un peu d'uchronie, c'est toujours un exercice extrêmement difficile, mais si ce référendum avait été ratifié par le peuple français, qu'est-ce qu'il lui restait à achever au cours de ce mandat au général de Gaulle?
Je pense que sa grande idée, c'était quand même ce qu'il appelait la participation, c'est-à-dire faire évoluer les structures du capitalisme à la française, qu'il ne concevait pas sans une présence forte de l'État, mais qu'il ne concevait pas aussi sans un nouvel équilibre, encore une fois, entre le monde des salariés, des travailleurs et le monde du capital. Et je pense que c'est ça qui l'aurait poussé, parce qu'il avait été obligé de le mettre un petit peu en veilleuse à cause des oppositions dans son propre entourage, de l'opposition de Pompidou, de l'opposition des milieux d'affaires. Il ne cherchait pas à vérifier par le référendum s'il était toujours légitime, c'est une erreur qu'on fait souvent. Il cherchait à acquérir une nouvelle légitimité pour ce qu'il allait faire.
Se relancer pour les quatre dernières années.
Voilà, pour un homme de cet âge, il avait peu de temps, je pense qu'il se disait qu'il avait peu de temps, mais qu'il avait peu de temps précisément pour faire des choses décisives.
Vous écoutez Politique sur France Culture ce midi. Notre invité est Arnaud Tessier pour évoquer avec nous l'année 1969 et le départ du général de Gaulle. Charles de Gaulle qui meurt le 9 novembre 1970. Le troisième tome de ses mémoires, qui ne sera jamais écrit, devait s'appeler Le Terme. Le Terme de quoi ?
Pas le terme de son action, en quelque sorte. Et on sait, il n'a pas achevé même le deuxième tome, mais on sait que de Gaulle, justement, il l'avait dit à son collaborateur Pierre-Louis Blanc, voulait un peu régler leur compte aux élites, c'est-à-dire aux élites économiques, aux élites sociales, à une certaine bourgeoisie qui avait été un obstacle. Il voulait un petit peu dire des vérités qu'il n'avait jamais eu l'occasion de dire. Évidemment, on regrette infiniment qu'il n'ait pas pu achever son livre, mais ça, il l'avait dit très explicitement. Il était de plus en plus dur dans son propos à mesure qu'il écrivait. C'est Pierre-Louis Blanc qui lui a fait remarquer, et de Gaulle lui a dit « Mais vous n'avez encore rien vu.
» Et dur aussi dans sa sortie, hein, après sa défaite, le général de Gaulle ne veut surtout pas être soupçonné d'interférer, de peser sur la vie politique. Il ne repasse pas par son ancien bureau de la rue de Solferino où il a fait transférer ses archives. Il refuse la dotation à laquelle ont droit les anciens présidents de la République. Il prépare son voyage en Irlande. Pourquoi, selon vous, la brutalité de cette rupture? Est-ce que c'est de l'amertume?
Non, ce n'est pas de l'amertume. Ça peut passer pour de l'amertume. Mais je pense qu'il ne voulait absolument pas être suspecté de vouloir peser sur l'action de son successeur. Parce que ça aurait été contraire à la conception qu'il avait des institutions. Bien sûr, il y a un côté dignité qu'il a toujours eu. Voilà, je m'en vais totalement. Mais il y a vraiment cette volonté de ne pas interférer avec la politique, parce qu'il ne voulait pas qu'on lui prête des pensées ou des paroles qu'il n'avait pas eues ou qu'il n'avait pas proférées.
Justement, vous parlez dans votre livre d'une fausse sortie shakespearienne. Alors pourtant, il ne parle plus. Pourquoi vous parlez de fausse sortie?
Parce qu'il ne sort pas, en fait. Il quitte le pouvoir. Mais il pense que ça ne met pas un terme à ce qu'il a entrepris. Le voyage en Irlande, évidemment, on a gardé les photos de Gaulle sur les plages irlandaises avec Madame de Gaulle. C'est très romantique, c'est le roi lire.
On les mettra d'ailleurs sur la page de l'émission sur franceculture.fr.
Voilà, c'est le roi lire. Et donc, on a l'image d'un de Gaulle qui en veut un peu aux Français, qui en veut à l'histoire et qui s'en va de manière très théâtrale. Il s'en va pas du tout de manière théâtrale, bien sûr. Il est théâtral par nature, parce que c'est un personnage improbable, il a un physique incroyable, un passé incroyable, une voix incroyable. Mais en réalité, il pense à la suite. Et l'écriture des Mémoires d'Espoir, qu'il entame immédiatement, c'est une entreprise pédagogique où il veut dire ce qu'il veut dire pour la suite. Pour lui, rien n'est terminé.
Il est silencieux, il n'est pas immobile. Il va se rendre à Verdun le 11 novembre 1969. Et puis, il y a ce curieux voyage en Espagne où il rencontre le général Franco. Comment vous expliquez cette visite?
Après son départ du pouvoir, il a rencontré Eamon de Valera, l'artisan de l'unité irlandaise, qui était un homme dur et qui était associé à l'histoire du XXe siècle. Et il a voulu rencontrer Franco parce qu'il voulait voir quand même un des derniers personnages majeurs du XXe siècle et de la Seconde Guerre mondiale, par curiosité pour évoquer les questions internationales avec lui. Et puis parce qu'il était un peu fasciné par ce personnage qui était très dur, implacable, mais qui avait réussi quand même à maintenir l'unité de l'Espagne, malgré une guerre civile terrifiante, et qui avait réussi aussi, de Gaulle s'en souvenait, à empêcher le passage des troupes allemandes en Espagne, qui aurait sans doute compromis le destin de la guerre et le destin de l'Afrique du Nord. Donc de Gaulle avait cette sorte de curiosité de rencontrer ce personnage qui, pour lui, incarnait cette difficulté essentielle du pouvoir, qui est comment exercer le pouvoir, comment obtenir des choses nécessaires, comme la survie, la collectivité, l'unité, sans se salir les mains. Et pour lui, Franco était un peu un cas emblématique de celui qui avait eu la main lourde, terriblement lourde, comme il le dit, mais dans une optique qui était la survie de la collectivité.
Alors, à de nombreuses reprises dans votre livre, dont je rappelle le titre, De Gaulle 1969, aux éditions Perrin, Arnaud Tessier, vous évoquez l'influence de Bergson sur De Gaulle, en particulier sur la question du temps. En quoi précisément ?
Parce que De Gaulle n'était pas un philosophe, mais il lisait énormément, il avait lu Bergson, et il avait retenu de Bergson cette idée simple et très opérante, qui est que le temps ne se découpe pas. Il n'y a pas le passé, le présent et l'avenir. Pour lui, c'est la durée qui compte. Et le passé, Bergson l'explique, le passé, il dévore le présent, il ronge déjà l'avenir, il avance en gonflant. Et donc, pour De Gaulle, il n'y avait pas un discours politique sur ce qui avait été, sur ce qui était et ce qui devait être. Il y avait une sorte d'action dans la durée, une histoire vivante, et pour lui, rien ne s'arrêtait, seul comptait la volonté. C'est pour ça qu'il considérait que rien n'était fini avec son départ, qu'il y aurait sans doute, comme il l'a dit à Debré, une longue période de médiocrité, mais que les choses repartiraient un jour, et c'était ça qu'il avait retenu de Bergson.
L'espérance, donc l'espérance qui nous mène...
L'espoir
qui est aussi une vertu de Malraux, et qui est aussi l'espérance une vertu catholique. Ça nous permet de faire la transition avec le sujet qu'on va examiner à présent. Nous rejoint dans ce studio Antoine Dulster, bonjour.
Bonjour.
La foi catholique du général de Gaulle peut-elle être une clé pour comprendre ses derniers moments à la tête de l'État ?
Oui, c'est une forme de rigueur morale qui semble dicter son comportement dans les derniers moments. Refus de se maintenir s'il est désavoué en avril 69. Refus aussi des honneurs posthumes et de toute funéraille nationale. Il l'avait écrit dans son testament. Alors on sait que Charles de Gaulle était un fervent catholique, pratiquant jusqu'au terme de sa vie. Son rapport à la foi peut-il expliquer ce trait de tempérament ? J'ai posé la question à l'un de ses biographes, Gérard Bardi.
Bien évidemment, je crois que nous pouvons affirmer que la foi chrétienne très profonde, qui était celle du général de Gaulle, a guidé son comportement aussi bien personnel qu'à la tête de l'État. Et c'est son fils, l'amiral Philippe de Gaulle, qui m'avait dit il y a fort longtemps, « Vous savez, mon père marchait sur ses deux jambes, son patriotisme et sa foi chrétienne ». Dans le livre que je lui ai consacré, qui s'appelle « Charles le catholique », je démontre assez facilement que la foi chrétienne du général de Gaulle a inspiré l'homme, le soldat, mais aussi le chef d'État. Et que cette rigueur extrême, cette exigence envers les autres, mais d'abord envers lui-même, tout cela est clairement dicté par ses convictions chrétiennes, par la place qu'il donnait à l'homme dans la société et par le respect qu'il avait vis-à-vis des autres, y compris d'ailleurs vis-à-vis des plus humbles. Et on sait quelle attention il a porté à sa fille trisomique à une époque où on cachait les enfants anormaux. Lui a voulu toute la vie de cet enfant qui a vécu 20 ans la garder au sein de la famille et il s'en est occupé. Et il avait vis-à-vis du peuple la même rigueur morale, la même exigence. On ne triche pas avec le peuple. De Gaulle ne trichait pas.
Et en tant que chef d'État, Charles de Gaulle se montra soucieux de garantir la laïcité, mais en même temps, il était à la tête d'une nation fille aînée de l'Église. Alors comment a-t-il géré cette apparente contradiction ? Les racines chrétiennes de la France étaient-elles, selon lui, une question politique ?
Les racines chrétiennes de la France fille aînée de l'Église, n'étaient pas une question politique. De Gaulle a dit, a écrit à plusieurs reprises qu'il avait épousé toute l'histoire de la France. Les racines chrétiennes de l'Europe et de la France, bien évidemment, comme il a épousé la Révolution. La Révolution n'était pas tout à fait son option personnelle, on s'en doute, mais il était porteur de la confiance du peuple et aussi longtemps qu'il a été, eh bien, il a respecté toutes les facettes de l'histoire de la France. Et il n'y a jamais eu chez lui de confusion. Il était croyant, pratiquant, mais il était avant tout le président d'une république scrupuleusement laïque. Et il a respecté cette laïcité. Il n'a jamais fait d'amalgame. Quand il parlait de la fille aînée de l'Église, quand il parlait des racines chrétiennes de la France, c'était pour rappeler son histoire, pour ne pas la nier. Mais il savait bien que dans la société d'aujourd'hui, même à l'époque où il était président de la République, l'Église comptait, mais elle était à sa place. Elle était une religion, la religion dominante, la religion historique, mais une religion parmi d'autres.
Voilà, c'était Gérard Bardy, journaliste et biographe de De Gaulle, qui a publié Charles le catholique, De Gaulle et l'Église aux éditions Plon en 2011.
Merci Antoine Dulster. Votre commentaire Arnaud Tessier.
Je suis absolument d'accord avec ce qu'a dit Gérard Bardy. Cette séparation que De Gaulle faisait entre ses convictions, enfin sa foi religieuse qui est absolument certaine, et son comportement comme chef d'État était très, très certain également. Mais De Gaulle, néanmoins, avait le souci d'apporter à la République une forme de sacralité. Alors il ne pouvait plus, il ressemblait beaucoup au cardinal de Richelieu, sauf qu'il n'était pas prêtre.
Dont vous avez fait la biographie également.
Voilà, et dont il n'était pas prêtre. Mais je pense que la façon dont il a conçu les institutions de la Ve République, et notamment l'onction par le suffrage universel, et l'onction par le référendum, c'est quelque chose qui est quand même extraordinairement religieux. Évidemment qu'il ne se présente pas comme tel, parce qu'il, comme le dit Gérard Bardy, il respecte ce qu'est la République française, mais pour lui, ce qui, en quelque sorte, est le substitut, c'est l'État. Le service le plus noble qui soit dans l'ordre temporel, dit-il aux élèves de l'ENA en 1959, c'est le service de l'État. Donc, ça imprègne quand même sa conception de la politique, même si, effectivement, il prend garde toujours à ne pas mélanger les genres dans la vie sociale.
D'un mot, est-il vrai qu'il avait fait aménager une chapelle à l'Élysée ?
Je ne sais pas, vous me posez une bonne question. Effectivement, je l'ai entendu dire, mais je ne sais pas.
Vous parliez des institutions à l'instant. Quel est son héritage ? Est-ce que les institutions de la Ve République sont encore gaulliennes ? Il y a eu beaucoup d'évolutions. Il y a eu le quinquennat qu'il n'avait pas prévu. Il y a eu la cohabitation qui n'était pas non plus forcément la logique de départ de ces institutions. Qu'est-ce que vous en dites 1969-2019 ?
Je pense qu'il y a eu une grande rupture à partir du début des années 80. Pompidou, Giscard, avec des nuances très fortes à partir de Giscard d'Estaing, respectent les codes du régime, c'est-à-dire cette notion de responsabilité éminente et directe du président de la République devant la nation. À partir des années 80, la conception de la décentralisation, la pratique des cohabitations, puis le quinquennat, et puis la pratique aussi de ceux qui étaient censés être les héritiers du gaullisme, comme Jacques Chirac, enfin, président de la République qui dissout, qui fait une dissolution de confort en 97, puis qui reste au pouvoir alors qu'il a été désavoué, 5 ans de cohabitation, tout ça a abîmé singulièrement le régime, la révision de 2008 aussi.
Vous dites quoi, qu'il ne reconnaîtrait pas les institutions qu'il a créées s'il revenait aujourd'hui ?
Non, mais c'est un organisme génétiquement modifié. Alors, je ne dis pas ça par nostalgie, parce qu'après tout, on peut toujours considérer que la constitution, les institutions ne sont pas adaptées. Mais faire comme aujourd'hui, on le fait, le procès des institutions en disant que si ça ne va pas, c'est à cause des institutions, je trouve ça incroyable. C'est à cause de la pratique des institutions que les choses ne vont plus. Parce que quand on parle de rétablir la confiance, il y a des outils prodigieux. Le référendum, c'est un outil prodigieux, mais on ne l'utilise pas. On est
très dangereux,
mais on l'utilise pas. C'est trop risqué. Ouais. On a oublié que la politique, c'est la prise de risque.
Vous écrivez un élément contre-intuitif dans votre livre également. Vous dites que le Premier ministre, à cette époque, Maurice Couve de Murville, a plus de pouvoir qu'un Premier ministre aujourd'hui. On penserait que le président de la République, Charles de Gaulle, ne laisse que des miettes. Ce n'est pas exactement le cas.
Pas du tout. Et de Gaulle, évidemment, fixe les grandes orientations et pèse très lourdement, notamment sur la politique étrangère. Mais il respecte entièrement le domaine d'action des premiers ministres. Et ces premiers ministres étaient loin d'être des
vasubordonnés.
Debré, il les a choisis en fonction des circonstances. Debré, c'est l'homme qui doit régler l'affaire algérienne. Pompidou, c'est l'homme qui doit gérer la modernisation du pays. Et Couve de Murville, c'est celui qui doit réparer un peu les conséquences de 68 et être un peu en retrait parce que De Gaulle veut reprendre la main. Mais jamais le Premier ministre n'était un personnage négligeable. Et quand vous regardez les dossiers qui étaient préparés pour Charles de Gaulle lors des conseils des ministres, vous voyez que c'était pas quelqu'un qui arrivait avec des tonnes de fiches et avec le souci de se mêler de ceci et de cela. Non, la fonction présidentielle à l'époque de De Gaulle n'est pas une fonction omnipotente, même si, évidemment, le personnage de De Gaulle fait qu'il est omniprésent dans l'imaginaire.
Merci beaucoup. Merci beaucoup Arnaud Tessier d'être venu nous parler de cette année 1969 et De Gaulle. De Gaulle 1969, c'est d'ailleurs précisément le titre de votre livre aux éditions Perrin. Et puis tiens, sur ce sujet, ne ratez pas Théâtre et Compagnie demain soir à 21h sur France Culture, soirée spéciale fiction et débat avec l'adaptation des chaînes qu'on abat d'André Malraux, adaptation par Guillaume Erner. 21h demain soir. Merci à l'équipe de Politique, Antoine Dulster à la préparation, Peyré Legras à la réalisation, Élise Leu à la prise de son. Dans un quart d'heure, la suite dans les idées, Sylvain Bourmeau, et dans un instant, le journal de 12h30 de la rédaction.